Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est midi 10 à Paris et il est, vous allez rire, midi 10 à 10. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous bimensuel. C'est ça la classe, CCC. Nous sommes là de nouveau, nous-mêmes, fidèles au rendez-vous, en direct sur Radio Diwa, rdiwa.fr, ou 107.5, la radio du Diwa, la radio des Diwa et même au-delà. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir, eh bien, en plus de nos habitués, de nouveaux jeunes gens, de nouvelles têtes, et surtout pour vous, auditeurs, de nouvelles voix, à commencer par Jean-Raphaël, qui est en seconde. Bonjour Jean-Raphaël.
Bonjour.
Et puis son voisin Jimmy, qui est également en seconde.
Bonjour à tous.
Bonjour Jimmy. Et puis Arthur.
Bonjour.
Dans les nouveaux que je n'en oublie pas, on a également Sophie.
Bonjour.
Et puis Magda.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux également en quelle classe?
Seconde.
Donc voilà, on a recruté un nouveau vivier. Les autres sont des piliers maintenant de CCC. Vous allez reconnaître, évidemment, quand il aura terminé, vous savez que c'est son habitude à cette heure-ci, c'est un peu l'heure en même temps, sa dernière bouchée, ou presque sa dernière bouchée, son sandwich est en train de fondre comme neige au soleil. Le sieur Ulysse.
Bonjour.
Et puis, quand même, cette fois-ci, je vais presque commencer par lui, parce qu'à chaque fois, je l'oublie. Notre technicien en chef, mais qui n'hésite pas à intervenir lorsqu'il a, et c'est souvent le cas, des choses à nous dire, c'est monsieur Joris.
Bonjour.
Puis monsieur Médéo, que vous connaissez également. Et puis, évidemment, Théo.
Bonjour à tous.
Fidèle au poste. Et une troisième fois féminine, car il y avait beaucoup de testostérone la semaine dernière. Et là, on a trois jeunes filles dans le studio. Énorme. Elle fait partie aussi des piliers de l'émission. Elle est là depuis le premier numéro, car c'est déjà le CCC numéro 6 aujourd'hui. C'est Anne-Sophie.
Bonjour.
Bonjour Anne-Sophie. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'être là pour les habitués. Vous savez qu'on a une nouvelle rubrique à la fin de cette émission qui est coup de cœur, coup de gueule dans la dernière quinzaine. Et ceux qui voudront s'exprimer sur le sujet de leur choix pourront le faire. Et puis, on va aussi ouvrir le standard de Radio Diwa. C'est aussi la grande nouveauté de ce CCC numéro 6. Donc je vais vous donner le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre. Si vous avez envie de débattre avec les lycéens ou les lycéennes, les élèves de seconde ou de première ou de terminale, avec Anne-Sophie, qui est la seule digne représentante de terminale. Vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous voulez pousser un coup de gueule aussi, toujours respectueusement et gentiment évidemment, car cela se fait dans la liberté d'opinion, mais le respect de chacun, eh bien vous pouvez le faire. Voici le numéro, prenez eh bien un stylo et un papier ou vos smartphones pour les plus équipés. C'est le 0952 368 531, c'est un peu compliqué, je vous le redonne, 0 952 368 531. Donc n'hésitez pas, en cours d'émission, d'ici 13h, car nous sommes là jusqu'à 13h ensemble, en direct sur Radio Diwa, à intervenir en cas de besoin et d'idées à apporter, et de l'eau à apporter à notre moulin du débat. Trois sujets aujourd'hui, la Syrie, quid maintenant du conflit, on commencera par ce sujet dans quelques secondes. Ensuite, nous parlons des espions de la NSA. Vous savez que notamment Snowden avait vendu la mèche au début de cet été en expliquant que l'Amérique espionnait tout le monde, y compris la France, a priori pourtant pas un ennemi. On a d'ailleurs appris il y a quelques jours que certains de ces espions se servaient du matériel de l'État américain pour espionner leurs femmes dans le cadre de leur vie privée. Donc ça déborde encore, l'espionnage. Et puis enfin, alors évidemment, toutes les radios, toutes les télés en parlent, mais évidemment ici dans CCC, on va apporter notre touche d'originalité, j'espère. Le fameux débat du moment, l'ouverture des magasins le dimanche ou la nuit, est-ce une liberté? Est-ce une contrainte? La loi est très 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 compliquée, il y a plein de dérogations, on parlera de tout ça. En troisième partie d'émission, on commence donc par la Syrie. Et donc, un bref résumé de la situation, si je peux dire. Une résolution a été prise il y a quelques jours de cela. Accord entre Poutine et la Russie et les États-Unis d'autre part. La France entre deux, on va dire, à propos des armes chimiques. Enfin, il a été reconnu par Bachar el-Assad qu'il y avait des armes chimiques en Syrie. Mais la résolution de l'ONU ne prévoit pas d'attaque en cas de non-respect de ce démantèlement d'armes chimiques. Et hier, on voyait les images des premiers membres de l'ONU qui arrivaient sur place en Syrie pour commencer cette recherche et ce démantèlement des armes chimiques. Est-ce que on doit prévoir des représailles? Est-ce que vous pensez, chers lycéens de CCC, que ça aurait dû être inscrit? Et est-ce qu'on a eu raison, surtout, d'intervenir ou de faillir intervenir, parce que M. Hollande était le président français à la pointe au milieu de cet été? Est-ce que ça justifiait et justifie ce qui s'est passé en Syrie, que éventuellement une guerre ait lieu si jamais il ne respectait pas son contrat vis-à-vis de l'ONU? qui veut prendre la parole?
Oui.
C'est Théo.
Bah, moi, je pense que pour démanteler les armes chimiques, je pense que c'est quand même une bonne idée que l'ONU soit y allé, parce que s'il l'utilise, ça pourrait faire des ravages dans la population, et ça pourrait inquiéter, je pense, la population de la Syrie.
D'accord. Donc tu penses que il faut être ferme avec la Syrie, car c'est un crime contre l'humanité?
Bah oui, je pense.
On peut le qualifier ainsi? Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Anne-Sophie?
Oui, oui. Mais, si, je suis d'accord avec ça. Faut le punir, je pense, parce que c'est un crime contre l'humanité. Et d'après son nom, on peut pas laisser faire une chose pareille. Après, je sais pas si la France a eu raison de tout de suite partir du côté des États-Unis pour tout de suite vouloir intervenir sans forcément avoir d'autres pays que les États-Unis. Parce qu'on est quand même un petit pays et je sais pas si on ferait... Je sais pas si pour ça on a eu raison. Surtout que la Russie n'était pas forcément pour à la base.
Tu parlais de punir, c'était justement le terme qui avait été employé par François Hollande et qui avait un peu été un sujet de polémique. Est-ce qu'on peut parler de punition qui doit être un peu le gendarme du monde? Alors l'ONU est un peu faite pour ça, mais on a trouvé qu'elle défaillait un peu. Certains hommes politiques en tout cas. Oui, Ulysse?
Ouais, moi je pense que la résolution de l'ONU sur les armes chimiques qu'on doit démanteler, qui a été proposée entre autres par la Russie, je pense que c'est entre guillemets une grande blague pour éviter justement...
Grande blague comme tu y vas.
Non, parce que je pense que c'est juste un contournement pour éviter de poser le réel problème de la guerre. Les armes chimiques, c'est aller peut-être 2000, 3000 morts sur les 100 000 morts qu'il y a eu depuis plus de 2 ans en Syrie. Et je pense sincèrement que les armes chimiques, c'est le plus symbolique. Et en fait, l'accord qui a été trouvé entre la Russie, les États-Unis à l'ONU avec M. Bachar el-Assad, je pense que c'est tout simplement une manœuvre d'évitement pour prolonger la guerre et pour la Russie. Cela permet de continuer la guerre et c'est vraiment pas la bonne solution. C'est un truc à court terme qui ne permet en rien de régler la guerre, de régler le problème à la fois de la dictature de Bachar el-Assad, de régler le problème... de l'islamisme qui est dans les factions opposées à Bachar el-Assad. Et donc cette résolution sur les armes chimiques ne sert pour moi pas à grand chose, si ce n'est est symbolique pour la communauté internationale. Ouais, on a agi et tout, que dalle.
Il y a deux objectifs, c'est-à-dire que est-ce qu'il s'agit de mettre en état de nuire les armes chimiques ou est-ce qu'il s'agit de faire en sorte que Bachar el-Assad s'en aille. Apparemment, c'est pas la deuxième solution qui est retenue par la plupart des intervenants internationaux.
Non, mais c'est bien d'enlever le 0,1% des armes de l'armée de Bachar el-Assad, mais enfin, il y a les armes conventionnelles, ils font tous les jours des dizaines, des centaines de morts, et c'est bien. On a enlevé le petit jouet de Bachar el-Assad, mais il a tous les autres trucs.
Qui n'est pas très fréquentable, mais tu sais que le souci, vous savez, c'est aussi qu'en face. Les rebelles ne sont pas très fréquentables non plus.
Oui,
ils font partie des extrémistes et islamistes pas très fréquentables, pour reprendre ce terme-là. Oui, Jimmy, première intervention de Jimmy, notre nouvel élément de cette nouvelle cuvée.
Ben, en fait, je suis assez d'accord avec donc, Ulysse.
Ouais, c'est ça.
Donc, je suis assez d'accord avec Ulysse. Ben, je pense que c'est surtout une raison. En fait, c'est pour se donner une raison d'aller en Syrie. Les armes chimiques, c'est pas tellement quelque chose d'important parce que tout le monde en a. Enfin, les États-Unis en ont, ils s'en sont servis même à certaines guerres. La France en a. Je pense que c'est surtout pour se donner une raison d'aller en Syrie pour.
Sauf que les pays que tu viens de citer sont des démocraties. Et que c'est quand même un peu moins dangereux a priori
Mais
que dans une dictature.
Ils en ont quand même. Donc par principe, ils pourraient aussi s'en servir. Mais là, c'est surtout pour se donner une raison d'aller en Syrie pour en quelque sorte soit démanteler Bachar el-Assad, soit continuer à la guerre.
D'accord. Quelqu'un d'autre, Arthur? Non, Médéo, pardon.
Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que des raisons pour aller en Syrie, justement, ils en avaient plein. Ils en avaient plein parce que il fait plein de massacres sur sa population. Et enfin, je me pose des questions parce que pourquoi justement on parle de la Syrie surtout quand il y a eu ces armes chimiques, alors qu'il y avait déjà plein de massacres auparavant. Et pourquoi on parle de la Syrie spécialement aussi, parce que il y a plein d'autres pays qui ont des problèmes, genre la Corée du Nord. Je me demande s'il n'y a pas justement quelque chose derrière tout ça. Qu'est-ce qui va se passer après si on intervient?
Tu as peur des conséquences que ça pourrait avoir si on allait au bout du
exemple,
processus, qu'on aille jusqu'à le punir,
exemple,
pour prendre le terme du chef de l'État.
Si on, par exemple, on intervient en Syrie et qu'ils font une guerre et tout ça, qu'est-ce qui va se passer après? Tu vois, vous voyez, je comprends pas.
Bah, tout conflit, toute guerre, oui, entraîne, c'est certain, des soucis de part et d'autre. Collatéraux, comme on dit. C'est sûr, c'est jamais anodin de partir dans une guerre.
Donc je pense que la question, c'est, elle va pas, elle n'est pas en lien avec les armes chimiques, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait, tout simplement.
Parce qu'on a vu que les révolutions arabes aussi, qu'on appelait comme ça, est moyennement concluant, ça dépend des pays, mais c'est vrai que ça n'a pas forcément tout réglé non plus. Oui.
Moi, je pense qu'il faut quand même surveiller ces
Arthur.
Pays. Oui. Qu'il faut quand même surveiller ces pays parce qu'ils sont dans des situations assez instables et qu'ils peuvent user de leurs armes chimiques qui peut-être, enfin, possèdent. Enfin, on n'est pas trop sûr, mais il faut quand même les surveiller pour faire attention à ce qu'il n'y ait pas de débordement.
D'accord. Donc, il faut les surveiller. Tout ça, c'est un peu du cinéma et c'est que dalle, pour reprendre l'expression d'Ulysse. Vous êtes d'accord avec Ulysse, avec Arthur, avec les autres? Vous n'êtes pas d'accord? N'hésitez pas. Au 0952 368 531, le standard vous est ouvert. Oui, Joris.
Après, le fait de surveiller, est-ce que ça amène pas à aller à l'encontre des libertés? Surveiller un pays, les fliquer, entre guillemets
Si, peut-être, mais en même temps, c'est un pays qui, comme je disais, qui est quand même assez instable et qui n'est pas dans un régime démocratique. Donc. C'est quand même assez compliqué de laisser un pays comme ça, même si c'est ce qui se passe dans l'enceinte de ce pays, c'est quand même assez ça peut être assez dangereux, quoi.
D'accord, Arthur, merci. Anne-Sophie et Jimmy.
Je voulais juste rajouter qu'en tant que démocratie, la France et les États-Unis, c'était leur rôle de dire stop et d'en parler et de mettre des limites. Mais à côté de ça, je pense qu'il fallait quand même qu'il y ait d'autres pays qui interviennent. Et quand on voit dans l'Europe, par exemple, qui était vraiment pour intervenir, il y avait que la France. Et je pense que c'est à partir de là que c'est un peu dangereux, les représailles qui vont être dangereuses pour la France. Parce que Bachar al-Assad l'a même dit, la France est un de nos ennemis directement, il l'a dit. Donc c'est à partir de là, moi je trouve ça un peu inquiétant, c'est qu'il n'y ait pas les autres démocraties, que les autres démocraties n'ont pas voulu directement intervenir.
Mmh. Effectivement. Jimmy,
je suis assez d'accord avec Joris. Enfin, normalement, on n'est pas censé avoir le droit de fliquer, en quelque sorte, de surveiller un pays, parce que notre principe, c'est la liberté. Et là, on enlève un peu les libertés du pays.
Et si ce pays enfreint les droits de l'homme?
Mais il enfreint les droits de l'homme, mais c'est à ce moment-là, il faut qu'il le dise directement. Parce que là, je pense qu'ils servent des...
Qui doit dire
Le gouvernement, tous ceux qui veulent faire la
Français,
guerre, l'ONU. L'ONU, veulent faire la guerre à la Syrie. Pour les surveiller, les punir, comme on a dit, mais ils se servent, ils disent pas ça directement, ils disent pas on va les empêcher, ils disent ils ont des armes chimiques.
Ah, je crois que le standard, eh bien, nous propose un auditeur. Alors, Joris, notre technicien, un auditeur en ligne. Allô ? Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour, madame.
Je suis Laurence.
Oui. Bonjour, Laurence. Bienvenue, merci de participer à ce débat.
Voilà, et je voudrais intervenir. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Si, on vous entend très bien. On a eu un peu de mal au début, mais est-ce que c'est la première fois? On vous entend. On vous écoute.
Donc j'écoute votre émission avec intérêt et je voudrais intervenir sur,
oui.
Sur le fait que vous oubliez le problème humain en Syrie et que vous venez de le dire, les droits de l'homme sont quand même un petit peu bafoués.
Oui.
Et qu'il y a des gens qui meurent, tout simplement. Donc, il n'y a pas qu'un problème d'armes chimiques. Il y a vraiment un problème d'un gouvernement qui essaye de dominer par la force. Et donc, voilà, quoi. Je voudrais que les jeunes puissent en parler aussi et avoir leur ressenti là-dessus.
D'accord.
Donc,
qu'est-ce qui veut répondre à Laurence, c'est ça? C'est Laurence, c'est votre prénom.
Oui.
Ulysse, peut-être, ou Théo veut répondre?
Moi là-dessus, moi je pense que vraiment, en effet, il y a un gros problème. On n'a pas encore parlé des milliers, des millions de réfugiés de la Syrie qui partent dans toutes les nations autour. Ça peut être, il y a beaucoup de camps qui sont qui sont en Turquie, qui sont dans les pays limitrophes. Le Liban aussi accueille beaucoup des millions des millions de réfugiés syriens qui ne savent plus où aller. Les villes sont devenues des terrains de bataille, plus personne n'y habite. Et donc je pense que vraiment le problème humain est également très, très important.
Voilà, c'est c'est pourquoi je pense que l'ONU peut-être se doit d'intervenir et voilà quoi, à ne pas négliger, parce que voilà, quand j'ai écouté votre, j'ai trouvé ça très intéressant que vous puissiez tous réagir là-dessus, et franchement je crois que je vais continuer à vous écouter parce que ça me donne le point de vue des jeunes, moi qui suis quand même assez âgée.
Ça s'entend pas du tout. Vous avez une voix très jeune.
Voilà quoi, je voudrais que vous n'oubliez pas cette compte-là dans vos débats. Voilà.
Vous êtes, on peut vous demander si vous habitez Die ou à côté de Die?
Ah non, je suis du côté de Grenoble.
Ah oui, donc vous nous écoutez sur radiodiwa.fr par ordinateur.
Voilà,
du coup.
Tout à fait.
Bon, ben écoutez, ça nous fait très plaisir.
Voilà, j'écoute sur Radio Diwa parce que j'ai un de vos jeunes qui est là et qui,
ah,
que je connais. Donc,
d'accord.
Donc, je me suis intéressée à cette émission et voilà.
Bon, merci à vous. On va pas forcément vous demander qui vous connaissez. Ça me mettrait peut-être mal à l'aise.
Tous
les jeunes sont en train de se regarder. Mais bon, en tout cas, c'est très gentil d'être intervenu. Quelqu'un d'autre veut peut-être continuer à dialoguer avec Laurence? Oui, Arthur?
Laurence? En fait, l'ONU, vous voulez qu'elle intervienne, mais elle dispose d'un certain nombre de moyens, mais sans trop spécialement utiliser la violence. Mais du coup, c'est quand même une organisation pacifiste qui devrait pas utiliser la violence. Mais comment ne pas réussir à ne pas utiliser la violence contre la Syrie?
Ah, je pense que c'est obligatoire d'utiliser la violence, moi. Pas le choix, et je pense que c'est pour ça que les autres armées se mettent en place et vont intervenir là-bas, quoi. Enfin, je pense que on peut pas malheureusement passer par le pacifisme.
Oui, mais alors après il y aurait peut-être de répercussions assez fortes sur le pays.
Ah oui, peut-être, ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Donc, de toute façon, c'est sûr qu'il y aura toujours, à partir du moment où quelqu'un utilise la violence pour avilir un peuple, et que nous, toute puissance, on est à côté, on peut pas, à mon sens, on peut pas constater et ne pas intervenir, quoi.
Après, c'est une affaire de choix. Une guerre, c'est l'animateur qui reprend le micro, qui se permet,
ouais,
de reprendre le micro, n'est jamais sans dégâts. Et on avait parlé de guerre propre à l'époque de la guerre en Irak, et évidemment, guerre propre, c'est un peu un non-sens par définition. Même si, on a progressé en la matière, ça reste une guerre, ça reste un conflit. Et comme vous disiez, c'était le sujet de votre question, il y a forcément des dégâts humains. En même temps, les dégâts humains, ils ont commencé quand même avec des armes chimiques de Bachar el-Assad. Donc c'est quand même le point de départ. Écoutez, Laurence, on vous remercie. Peut-être un dernier mot d'un autre de nos jeunes, en l'occurrence Jimmy.
Utiliser la violence, c'est pas un peu radical? On pourrait pas juste faire ça comme ils ont fait pendant la guerre froide pour menacer? C'est pas un peu radical, direct, d'y aller et de rentrer dans les gens?
Je crois qu'il ne s'agit pas de direct rentrer dans les gens. Je crois que c'est un problème qui dure depuis longtemps et qu'on constate et qu'on voit évoluer depuis longtemps. Je pense que c'est pas nouveau. Et donc, je ne crois pas que ça soit radical. Voilà, entre guillemets. Je pense que leurs actions contre leur peuple sont bien plus radicales que peut-être que celles que l'on utilise. Mais bon. Après, moi, je suis pas homme politique et je sais pas certainement ce que je ferai dans ce genre de situation, mais je sais pas si on peut juste constater et combien de temps on peut constater. Voilà, c'est tout.
Laurence, on vous remercie pour votre contribution en tout cas. Restez-nous fidèles et ça nous fait plaisir, ça nous motive pour continuer cette émission.
Il n'y a pas de problème, j'adore la participation comme ça active de jeunes autour de sujets, ça me plaît beaucoup. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup à vous. Transmettez autour de vous 107.5 et à grenobradiodiwa.fr. Merci.
Il n'y a pas de souci, merci, au revoir.
Au revoir, Laurence.
Au revoir.
Au revoir.
Eh bien, écoutez, je crois qu'après avoir laissé Laurence, on va laisser ce sujet-là probablement jusqu'à un prochain épisode, parce qu'il est fort possible qu'on soit amené à reparler de la Syrie en fonction de la bonne volonté, on va dire, ou pas, de Bachar el-Assad. Peut-être un petit jingle, je ne sais pas si le technicien qui est déjà très affairé au standard, et on le remercie parce qu'on a parfaitement entendu Laurence assez vite, en tout cas. On est quelques secondes difficiles au début, mais c'est normal, c'était la première. Mais j'espère que ça s'est bien entendu à l'antenne aussi. En tout cas, pour nous, Laurence était parfaitement audible. Un petit jingle, Joris? Jingle, Joris. Non, tout à l'heure. Alors.
Non, ils ne sont pas encore prêts, mais sinon, d'accord. Il y a une musique, comme vous voulez, ou un extrait. Ou
petite
voilà.
Musique être rapide. Bon, ça sera pour le sujet 3. On va passer au sujet 2. Merci quand même, Joris. Et on va donc parler des espions de la NSA. Est-ce que les Américains écoutent pour éviter des attaques? Depuis évidemment 2001, on peut comprendre qu'il soit un petit peu sur les dents, ou est-ce qu'au contraire, l'Amérique est un peu paranoïaque, jusqu'à espionner la France, qui a beaucoup choqué en ce début d'été. On n'est a priori pas leurs ennemis premiers sur la liste. Je disais donc, pour l'anecdote, mais qui n'est pas qu'une anecdote, qu'on s'est même rendu compte que certains abusaient jusqu'à espionner leurs femmes pour savoir si elles étaient fidèles avec le matériel de l'État. Donc est-ce que ces gendarmes du monde, que sont les États-Unis, comme on les appelle souvent, n'abusent pas un peu? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu parano? Qu'est-ce que vous en pensez, Ulysse? Et puis peut-être Jean-Raphaël?
Ouais, juste pour la petite histoire, comment cette histoire a été révélée, je voulais juste... En fait, c'était un employé de la NSA, donc la National Security Agency, qui très fort pouvoir aux États-Unis de contrôle de tout. Enfin, qui, disons, leur but est de la sécurité des Américains, entre guillemets. Et en fait, donc cet homme-là, Edward Snowden, est parti des États-Unis, de Hawaï exactement, pour Hong Kong, avec une clé USB, avec des centaines de beaucoup de données de la NSA, entre autres des présentations des programmes principaux comme XKScore ou Prism. Et en fait, ce sont des programmes qui, révélés par le quotidien britannique The Guardian, a révélé que les Américains, en gros, espionnent toute la planète, ils stockent tout, ont des outils très très puissants de recherche des données et... donc, on a accès aux serveurs de tous les géants du web, donc tout ce qu'on met sur Facebook, Microsoft...
Qui est déjà un espion en soi, hein,
entre autres. Sauf que, bon, là, c'est plus Facebook qui connaît tout, mais c'est même le gouvernement américain. Donc, Facebook, Apple, tout ce qui est Google Drive, tout ça. Donc, tout le monde est... Enfin, ils peuvent savoir tout sur nous, tout ce qu'on met en ligne, et même tout ce qu'on peut mettre sur nos téléphones. Ils peuvent tracer nos téléphones. Et entre autres, en plus de ça, on a pu voir qu'ils ont pu espionner des entre guillemets alliés. Il a été prouvé qu'ils ont infiltré et craqué le réseau interne de la diplomatie française, le réseau des ambassades. Ils ont espionné toutes les ambassades françaises, Union européenne et allemande à Washington, et les ambassades à l'ONU à New York. Donc un Big Brother américain qui est vraiment tout, surtout on s'en doutait, mais d'une ampleur comme ça.
Et ça a été un peu tendu, hein, à un moment donné, entre les États-Unis et la France. On a demandé un peu à quand même, c'est au président américain Obama, qui a dû se justifier, même si ça y ressemblait pas vraiment, mais il a dû quand même faire une intervention. Donc voilà, ça tardait peut-être pas. On savait évidemment qu'on est espionné, et que, en particulier par les États-Unis, parce que voilà, on lisait les super gendarmes du monde, mais à ce point-là, probablement pas, et c'est pas forcément justifié.
L'Europe, il a dit c'est pas bien, on veut pas, mais.
Un peu comme avec la Syrie, d'une certaine manière, même si là une résolution a été prise. Jean-Raphaël ?
Moi, je pense que les États-Unis, ils ont raison de... Donc, je suis pas totalement d'accord avec Ulysse. Je pense qu'ils ont raison d'espionner un peu tout le monde, entre guillemets. Comme vous le disiez, comme il s'est passé en 2001, je pense maintenant ils sont très méfiants et pour arriver à contrôler et à espionner donc les prochaines attaques. Et donc, je pense que surtout par rapport à la Corée du Nord, qui sont en problème avec les États-Unis, je pense qu'ils ont raison donc d'espionner certains pays. Mais la France en ferait pas partie.
D'accord.
Il faudrait qu'ils sélectionnent leur cible.
Oui, encore une fois, on n'est pas forcément les plus éloignés des États-Unis. On l'a vu encore avec la Syrie, hein, où clairement M. Hollande était sur la même ligne. Ce qui n'a pas été le cas avec l'Irak il y a quelques années, M. Chirac et M. Villepin. On va écouter Jimmy.
J'ai vu que Snowden, donc l'homme qui a donné les informations...
Le lanceur d'alerte.
Voilà, le lanceur d'alerte a été obligé de se réfugier en Russie, car il était menacé. Et après, je suis aussi du même avis que Jean-Raphaël, mais j'ai aussi lu qu'ils avaient des problèmes et qu'ils n'avaient pas assez d'informations sur la Corée du Nord, qui en ce moment est leur ennemi. Mais ils ont plus d'informations sur nous, alors qu'on est considérés comme leurs alliés, comme ceux qui ont toujours été avec eux. Et ils n'en ont pas assez sur leurs ennemis, donc je trouve ça quand même un peu bête.
Ça s'appelle un paradoxe, effectivement. Quelqu'un d'autre ? En rappelant que, évidemment, le standard est toujours ouvert, après avoir eu le plaisir d'entendre Laurence, nous sommes prêts à répondre à vos questions, vos critiques. Bref, à écouter votre avis au 0952 368 531. 0952 368 531. Médéo ?
Moi, ce qui m'embête, c'est... Enfin, déjà, ça m'embête qu'ils espionnent tout le monde. J'aime pas trop ça. Il n'y a plus de liberté, en fait. Et ce qui...
Ça me rappelle de le débat de la semaine dernière à propos des vidéosurveillances.
Voilà, et là où on avait dit...
Nous retrouvons Médéo et son envie de liberté.
Voilà, mais pourquoi ? Parce qu'on est censé rien avoir à se reprocher. Mais ce qui m'embête surtout, c'est que nous, on ne sait rien sur les États-Unis. Et on a pu voir que quand il y a eu des documents secrets qui ont été dévoilés, par exemple...
On sait rien, l'article, parce que... On sait rien. On a compris, on sait rien, c'était le sujet tout à l'heure. Pardon.
Et par exemple, avec Wikileaks, qui avait dévoilé des documents secrets des États-Unis, on a pu voir que... Il y avait plein de trucs qu'on ne savait pas sur les États-Unis, qui n'étaient pas forcément positifs, pas positifs pour les États-Unis. Et voilà, eux ils nous espionnent comme si on faisait des choses mal ou qu'on allait faire des attentats et tout ça, alors qu'eux derrière ils font des trucs en cachette et pas forcément très bien.
Ah, ces Américains quand même.
Ah ouais.
Alors, tu parlais de cachette, il y en a un, on pensait qu'il était arrivé en cachette, mais maintenant il se révèle puisqu'il veut intervenir, donc je ne l'ai pas présenté tout à l'heure. Adrien, qui fait partie de notre Dream Team habituel, entre deux cours de saxophone, je crois.
Exactement.
Vient de nous rejoindre au vol, il a des obligations musicales, mais il ne joue pas du pipeau ici, pas plus que là-bas, c'est du saxophone. Et ici, on vous dit la vérité, on dit ce qu'on pense, les lycéens surtout vous disent ce qu'ils pensent. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire sur la NSA ?
Alors, moi, je suis carrément contre, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jimmy, que c'est vraiment n'importe quoi que les Américains en sachent plus sur nous, sachant qu'il n'y a jamais eu ou peu de conflits entre nous. Ça a toujours été une entre guillemets une grande amitié. Et puis ça rejoint un peu le thème qu'on a débattu il y a deux semaines sur la vidéosurveillance où on était un peu fliqués. Ben là, ça rejoint un peu je rejoins un peu le même avis, comme quoi on est surveillé par le web. Donc il y a beaucoup de dangers, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on met, ce qu'on publie pour justement éviter ce genre de choses.
D'accord, merci Adrien. Théo ?
Bon, après, on dit que c'est les Américains qui sont en train de... qui font des recherches et tout, mais après, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres pays qui feraient comme eux ? Et est-ce qu'on pourrait pas mettre des limites ? Parce que, après, est-ce qu'il y aurait des pays, par exemple... Je sais pas, la Corée du Sud, Corée du Nord, est-ce qu'elle ferait pas aussi des recherches sur l'Amérique ?
La France, je pense.
C'est
fort possible, alors peut-être pas avec les mêmes moyens que... Oui. Encore que pour ce qui est de la Corée du Nord, on sache pas grand-chose, hein, par définition. Oui. C'est un des pays les plus reclus au monde, et on ne sait absolument rien de ce qui s'y passe exactement, sinon que c'est une des dernières lourdes et très dures dictatures au monde, et un peu inquiétante, voire très inquiétante aussi pour le reste de la civilisation démocratique, on va dire. D'autres choses sur... la NSC. Ouais,
moi aussi, je suis d'accord avec...
Donc ça, c'est Magda.
Oui. Je suis d'accord avec ce que Jean-Raphaël a dit. C'est normal aussi que les États-Unis aient peur après tout ce qui s'est passé avec Wall Street et tous les attentats qu'ils ont eus. Mais aussi, il ne faut pas... Enfin, après, c'est ce qu'a dit Jimmy. Il ne faut pas... faut pas surveiller leurs amis. Enfin, normalement, leurs amis. Et il faut plus surveiller leurs ennemis. Car leurs ennemis aussi pourraient faire du tort aux amis des Américains. Mm-hmm.
Ouais. Moi, je voulais revenir justement. On dit ils ont eu peur en 2001. Les tours, ça fait 3000 morts. C'est quand même horrible. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quelques semaines après, donc c'est-à-dire une voix qui a été votée en, je crois, 5 semaines, le Patriot Act, ça s'appelle, a permis aux États-Unis de légalement, en fait, d'espionner tout le monde et donc de rendre entre guillemets de rendre légal ce qui était illégal, c'est-à-dire l'espionnage massif de tous les Américains et de tout le monde. De faire des par exemple qui a rendu entre guillemets autorisé la torture, comme ça a permis de faire Guantanamo qui je vous rappelle n'est toujours pas fermé, contrairement à ce qu'a dit Obama pendant des années. Il voulait le fermer, il a pas pu. Et donc je pense vraiment que le Patriot Act est donc la conséquence du 11 septembre est vraiment le Patriot Act. Et en fait, je pense que c'est la peur américaine et la peur qui a fait qu'on est venu là, et je pense que c'est vraiment c'est la peur nous affole et nous rend... On n'est plus rationnel dans nos choix, et donc je pense que c'est cette peur-là qui a fait que aujourd'hui les États-Unis espionnent tout le monde, tout le temps, partout, n'importe où.
D'accord, Ulysse, c'était le coup de gueule. Ulysse a le privilège de nous proposer des coups de gueule avant la séquence officielle des coups de gueule chaque semaine. Non. Mais c'est bien, comme ça on se prépare pour la fin de l'émission, psychologiquement. Et avec Ulysse, on peut s'attendre encore à un autre coup de gueule à la fin de l'émission. On va peut-être terminer sur ce sujet avec le jeune
Arthur.
Bah,
moi je tenais à dire qu'après ce qui s'est passé, donc l'attentat des tours jumelles, les Américains sont allés en Afghanistan pour... essayer de démanteler certains réseaux
terroristes,
voilà, excusez-moi. Et ils ont fait quand même des horreurs. Ils ont arrêté des suspects et à certains moments c'était totalement faux. Ils ont arraché à leur famille et du coup ça a créé quand même de très mauvaises relations entre les États-Unis et l'Afghanistan. Et je trouve que c'est pas spécialement normal. Enfin, même si il leur arrivait quelque chose d'assez gros, un gros attentat de 2 tours, c'est quand même pas normal qu'ils fassent des choses comme ça pour en arrêtant des personnes sans savoir si c'est eux ou pas qui ont participé ou qui sont membres de réseaux terroristes.
Mmh. D'accord, merci Arthur. On termine vraiment peut-être pour pouvoir passer à un sujet plus léger d'une certaine manière, mais enfin important, en tout cas qui préoccupe beaucoup les Français et les politiques en ce moment. On termine avec Jimmy.
En fait, je pense que si ça nous choque tellement que ce soit les États-Unis, c'est parce que c'est un peu considéré comme le pays dominant le monde depuis plusieurs années. Alors que, par exemple, Israël, qui a aussi, on pense, une très, très importante
puissance.
Puissance, voilà. Puissance d'espionnage, pourrait faire pareil. Mais comme elle reste discrète et en retrait, même si quelqu'un le dit, personne ne s'intéressera à ça.
Je pense quand même que le monde a les yeux grands ouverts du côté de l'Israël et de la Palestine. Ça reste malheureusement des secteurs du monde qui sont tendus, on va dire. Bah écoutez, je vous remercie. On va passer au troisième sujet. Jingle, pas jingle.
Oui.
Jingle.
Jingle. Ça va être Sunday Bloody Sunday de U2.
Ah, ça je connais. A tout de suite sur CCC. Voilà, nous sommes de retour après Bloody Sunday, cette chanson mythique de
Sunday.
Oui. Et nous sommes de retour sur CCC, sur 107.5, sur Radio Diwa. J'en profite juste avant de passer au troisième sujet pour remercier nos partenaires, comme l'on dit, notamment dans le monde des médias et de la radio, le lycée du Diwa et la région Rhône-Alpes également, qui nous soutient dans ce projet fort sympathique. Donc merci à elles. Le troisième sujet, eh bien, c'est l'ouverture des magasins le dimanche ou la nuit. Alors pourquoi la nuit? Je vais faire un peu mon Ulysse et faire une pièce d'introduction au sujet. Vous savez qu'il y a eu les magasins de parfumerie qui avaient comme possibilité d'ouvrir très tard le soir jusqu'à 23h minuit, je crois, sur les Champs-Élysées, leur parfumerie. Une loi a décidé d'interdire cet état de fait. Et puis, c'est surtout maintenant le travail le dimanche qui pose souci. Il faut savoir que depuis 1906, une loi, ça commence à dater, interdit le travail le dimanche, sauf qu'il y a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de dérogations depuis. 120 000 euros d'amende par journée illégale doivent être payés par les magasins de bricolage notamment, c'est surtout eux qui sont concernés. Certaines caissières témoignaient ces derniers jours en expliquant qu'elles gagnaient 30 euros de l'heure au lieu de 10 euros de l'heure les dimanches, sauf qu'il y a là encore des dérogations. En effet, certains contrats stipulent qu'on n'est pas forcément payé double ou triple si on fait 35 heures et pas plus dans la semaine le dimanche. Et les dérogations, donc, essentiellement, il y en a de trois sortes. D'abord, les magasins d'alimentation qui ont le droit d'ouvrir, boulangerie comprise bien sûr, jusqu'à midi seulement, donc le dimanche matin uniquement. Les magasins de bricolage et d'ameublement pour la maison au sens large. Et puis, tout ce qui concerne les zones touristiques. Il faut savoir que la délimitation n'est pas toujours très claire. Par exemple, en Ardèche, les élus locaux n'ont pas estimé, semble-t-il utile, de devoir être dans la dérogation, puisque, a priori, c'est un département proche d'une autre, ou qui n'est pas considéré comme zone touristique. Curieusement, en tout cas, il y a très peu de magasins ouverts le dimanche. Alors, vous savez que le débat du moment, c'est finalement qui choisit. Est-ce que c'est uniquement les gens qui veulent travailler le dimanche pour gagner plus d'argent, les étudiants, ça sera bientôt votre cas, qui donc du coup peuvent avoir droit à cette dérogation? Est-ce que c'est les patrons qui imposent le travail le dimanche pour gagner plus d'argent? On imagine que les 120 000 euros d'amende ne sont peut-être pas grand-chose puisqu'ils décident de prendre ce risque-là par rapport au chiffre d'affaires qu'ils doivent faire le dimanche. Qu'en pensez-vous, jeune chroniqueur de CCC, pour ou contre le travail le dimanche? Est-ce qu'il est normal que des gens souhaitant travailler aille dans la rue en ce moment pour continuer à pouvoir travailler le dimanche? A l'inverse, est-ce qu'un patron peut imposer ce jour dominical où on est en famille et où on peut faire autre chose à la fois qu'acheter ou vendre, selon le point de vue duquel on se place? Oui, bah, Anne-Sophie.
Je pense qu'on ne peut pas totalement dire oui ou non. Déjà, il faut que ce soit... En fait, les personnes qui veulent travailler le dimanche, je ne vois pas pourquoi on devrait leur refuser, parce que dans le contexte où on est actuellement, 30 euros pas de l'heure, c'est pas négligeable. Mais à côté de ça, c'est toujours la même chose, c'est pas un oui ferme, c'est-à-dire qu'en contrepartie, il ne faut pas que ces personnes-là soient obligées de travailler par leur patron, il faut que ce soit, je pense, leur volonté. S'ils veulent travailler, je ne comprends pas qu'on puisse leur interdire. Et après, c'était le travail le dimanche, c'était aussi par rapport pour un repos, mais c'était aussi par rapport aux autres magasins pour éviter la concurrence, des grands magasins pour les petits magasins. Ça, je n'ai pas trop... David.
Oui, c'est un des arguments contre, hein, c'est-à-dire que les petits commerceux n'ont pas ces dérogations-là en général, et c'est les grandes surfaces qui ont bénéficié. Jimmy ?
Je suis assez d'accord, on ne peut pas dire un oui tout à fait...
franc et massif.
Voilà, un oui franc et massif, mais c'est vrai que si les magasins étaient ouverts le dimanche, c'est vrai que ce serait assez pratique, parce que ça arrive souvent, les gens font plus de choses le dimanche, car c'est un peu eux aussi leur jour de repos, et par exemple, quand ils font du bricolage, il n'y a aucun magasin qui est ouvert, donc ils sont obligés de reporter ça la semaine d'après ou dans deux semaines.
Ah, au lendemain, en l'occurrence. Non. La veille. Quand tu dis la semaine d'après, évidemment, dit comme ça, ça fait loin.
Non, mais...
Au lundi.
Oui, mais ils auront peut-être pas le temps de faire ce qu'ils avaient à faire avec toutes leurs pièces qui leur manquaient.
D'accord.
Du coup, peut-être qu'il faudrait qu'ils ouvrent, mais pas tout le temps.
C'est Jimmy, le bricoleur, donc, qui intervient. Tu fais du bricolage toi-même?
Non, mais
tu pourrais.
C'est
une
idée.
Tu as de la famille qui fait du bricolage. Oui. Mais on pourrait prendre des cas concrets. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés vraiment dans la panade? Alors, tout est relatif, c'est que du bricolage. Mais voilà, un dimanche, zut, c'est fermé. Il faut vraiment que j'attende demain. Et je sais pas, moi j'ai une fuite. C'est plutôt la plomberie, mais c'est urgent. Théo?
Ouais, moi, je pense que si c'est un magasin, où dedans, il y a des salariés, des caissières, c'est un peu le choix du patron. Après, c'est vrai que si les caissières elles ont pas envie, elles ont le droit. Et par exemple, les petits commerçants, eux, si c'est leur choix de travailler le dimanche, par exemple, si la semaine ils ont fait un moins bon bénéfice, pour moi, c'est leur choix. Je comprends pas pourquoi on interdit à des magasins le dimanche d'ouvrir.
Sophie et puis Adrien?
Moi, je pense que c'est soit c'est tous les magasins ils ouvrent, soit il y en a pas. Parce qu'après, c'est un peu de l'injustice. Parce qu'il y en a qui vont faire plus de bénéfices que d'autres.
Et par rapport à la liberté alors de l'employé, Adrien, enfin, j'ai passé là-dessus que tu voulais intervenir. L'argument des syndicats, qui pour la plupart sont contre, c'est si on commence à dire oui et on dit d'un côté, effectivement, certains sont volontaires, ça va devenir obligatoire pour tout le monde. Et du coup, ça sera systématiquement plus payé double ou triple parce que ça sera la loi et les magasins seront ouverts 7 jours sur 7.
Certes, c'est le patron qui gère son entreprise, mais après c'est à l'employé de dire ses disponibilités quand il se fait embaucher. Et puis je suis contre que ça soit obligatoire parce que France est un pays laïque et pour certaines religions, notamment le judaïsme, il
y a le samedi qui est le jour du sabbat où on ne doit pas travailler.
Oui, puis après si on oblige, après on... Si on oblige, on va un peu à l'encontre des libertés, ça veut dire, en gros.
Qui? Du patron, de l'employé, des deux, des consommateurs?
Parce que déjà, il doit avoir le droit de choisir.
Je ne sais pas si on t'entend très bien, Joris.
Non. Oui.
Voilà, c'est mieux. C'est le comble, là. Si notre technicien, on ne l'entend pas.
L'employé dit s'il souhaite son dimanche ou pas.
Voilà.
Oui, mais...
Faudrait-il pas voir ça avec les ressources humaines aussi, qui gèrent ça, qui fassent un lien entre le patron et l'employé?
Mais si l'employé dit qu'il peut pas travailler dimanche, je pense que le patron, comme il veut qu'il travaille le dimanche, il va pas le prendre, c'est tout. Bah oui. Vu que le patron, son but c'est de faire des bénéfices, il va pas regarder, tiens, est-ce que mon
alors
employé...
Alors on se met tous sur un pied d'égalité et personne travaille.
Parce que si personne ne veut, comment fait le patron concrètement? Si personne n'entend
pas. Et si nous manque un marteau ou des clous, on va demander aux voisins tout simplement.
Ah, ça c'est une bonne idée. Voilà. Il y a la fête des voisins, je crois, au printemps chaque année. Oui, c'est mais ça. Même c'est l'occasion de créer des liens et le reste de l'année d'aller voir le voisin ou la voisine. Bon, on s'entend pas toujours avec ses voisins, mais on s'entend souvent avec ses voisins et c'est une bonne idée. Pas longtemps, ça m'arrivait d'aller demander quelque chose à mon voisin, effectivement. Je vous les anecdotes perso, je vais pas raconter les miennes, mais vous m'avez pas répondu tout à l'heure. Ça vous est déjà arrivé, justement, ça, d'aller chez le voisin, frapper ou vos parents pour récupérer tournevis
Une omelette, on avait besoin de...
Ah, une omelette, c'est autre chose. D'une poêle.
Pour la nourriture, je pense que c'est important de pouvoir avoir accès...
Et du jambon, pour l'omelette au jambon.
Du persil.
D'accord, c'est non. Alors là, on n'a pas de bricoleur, par contre, on a un chef cuisinier en la personne d'Arthur, visiblement.
Oui. Moi, je pense que sur le plan économique, je pense que des grandes firmes transnationales comme Carrefour ou U ou Auchan, enfin, des grands magasins comme ça, si ça leur changerait pas grand-chose d'ouvrir le dimanche ou de rester fermé. Contrairement aux petites épiceries ou à des petits magasins de proximité qui ça leur ferait gagner un peu plus d'argent et contrairement aux grosses entreprises.
Il nous reste une petite dizaine de minutes, chers auditeurs et chères auditrices. C'est une auditrice qui nous a appelé tout à l'heure, donc je me permets de vous rappeler une dernière fois le numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre encore jusqu'à 12h59. 0-952-368-531. 0-952-368-531. Et vous pourrez intervenir en direct. Il vous reste 8 minutes à peu près pour le faire, frontalement. Avec nos chroniqueurs. On va peut-être terminer avec Mademoiselle Magda et Jimmy.
Et aussi peut-être que ça pourrait déranger aussi les chefs d'entreprise. Ça pourrait déranger les chefs d'entreprise de payer les gens qui travaillent le dimanche parce que déjà ils sont payés plus cher. Et aussi, ils sont payés plus cher, du coup peut-être que ça dérangerait les chefs d'entreprise de payer plus cher des personnes et peut-être qu'ils ne voudraient pas les faire travailler le dimanche.
Effectivement. Jimmy ?
Bah, en fait, je suis relativement d'accord avec Arthur parce que il a dit quelque chose d'intéressant parce que les grands commerces, ils ont un chiffre d'affaires.
C'est pas étonnant de la part d'Arthur. Hein.
Ils ont un chiffre d'affaires, ils ont un chiffre d'affaires énorme toute la semaine. Alors que les petites épiceries, comme il disait, la semaine, les gens ne vont pas aller là. Ils vont plutôt aller dans des grandes surfaces où ils trouveront peut-être beaucoup plus de choses. Et comme ça, le dimanche, mais ils pourraient aller se dépanner à l'épicerie, donc faire gagner plus d'argent au patron.
Oui, enfin, les petites épiceries, elles sont ouvertes souvent très tard. C'est quand même des commerces de proximité. Donc ça permet aux gens, quand ils ont oublié d'acheter des œufs ou quoi que ce soit, ça leur permet de... C'est à côté de chez eux, donc au lieu de prendre la voiture, ça limite les déplacements.
Et Adi, on va pas faire de publicité parce qu'il nous a pas encore payé, mais il y a notamment un épicier dans la rue principale qui a des horaires d'ouverture assez spectaculaires. Hein. On peut rendre hommage au moins à ça sans faire de publicité illégale, on va dire. Il est ouvert très tard, le week-end aussi, je crois. Donc c'est vrai que pour les personnes âgées, notamment, c'est souvent l'exemple qu'on donne, mais ça peut être pratique. Et
ou les personnes qui travaillent de nuit.
Ou les personnes qui travaillent de nuit, bien sûr, aussi, ça existe. Anne-Sophie, et peut-être qu'on va vraiment terminer avec Anne-Sophie parce qu'il nous reste un petit peu de temps pour faire nos coups de cœur et coups de gueule. Oui.
Et puis bah, juste pour finir, en fait, c'est vrai que c'est pas bête cette histoire d'ouvrir les petites épiceries parce qu'en plus du coup ils ont pas de caissière à payer. C'est souvent un couple ou c'est souvent une seule personne qui tient ça et du coup à ce moment-là ça pose pas de problème d'obliger quelqu'un à travailler ou pas. C'est leur propre choix s'ils ont envie d'ouvrir le dimanche ou pas. Et dans ce cas-là, ceux qui veulent faire plus de profit ou ça les arrange de travailler plutôt le dimanche qu'un autre jour, à ce moment-là, ils pourraient choisir d'ouvrir.
D'accord. Donc, si je fais la conclusion de tout ça, quand même, c'est que c'est pas aussi tranché que ce qu'on peut l'entendre dans les médias pour vous, lycéens, adolescents de 16-17 ans. Vous êtes un peu partagé sur le sujet, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, en effet, d'avoir une réponse absolue, dans l'absolu. C'est souvent des cas particuliers. On va passer à notre dernière rubrique avant de se quitter, chères auditrices et chers auditeurs. Vous pouvez toujours intervenir au 0952 368 531, c'est le moment ou jamais où vous allez le regretter, jusqu'à la prochaine quinzaine, puisqu'évidemment nous reverrons le standard. Alors qu'est-ce qui veut pousser son coup de colère ou au contraire son coup de cœur dans l'actu de la dernière quinzaine, Adrien, oui?
Moi, un petit coup de cœur, tout simplement.
Essayez de faire court pour que plusieurs puissent
entendre. Oui, un petit coup de cœur, tout simplement, il fait beau et voilà, je suis très content.
Ah,
on peut encore se mettre
entendu.
En short.
C'est vrai.
Voilà, avec l'automne qui est arrivé, ça commence à faire peur, mais bon, il fait toujours beau. Voilà,
c'est ce qu'on appelle l'été indien. Allez, ça se baigner. Poursuit. Vous baignez encore ?
Oui.
Oui, dans
à
la Drôme.
Drôme.
Dans la Drôme. Oui, j'imagine. Pas que dans votre baignoire, dans la Drôme aussi.
On n'a pas de baignoire.
Elle doit être un peu fraîche. Il n'y a pas de baignoire à l'internat. Nous avons des internes là autour de la table.
Et des jacuzzis.
Des jacuzzis à l'internat. Ça alors, je fais régulièrement visiter aux journées portes ouvertes. On ne m'avait jamais montré ces endroits-là.
C'est
vous
secret.
Gardiez les plus précieux, c'est ça. Et les plus secrets,
secret
je
interne.
Comprends. Arthur, Ulysse, pardon.
Ouais, bah justement, ça me faisait une super transition sur le temps parce que moi, je voulais parler justement du climat. Et on a vu la semaine dernière qu'il y a eu le nouveau rapport des experts intercontinentaux.
GIEC.
Du GIEC, voilà, j'allais le lire. Et donc,
pardon.
Et donc, qui expliquait que d'ici un siècle, normalement, la température allait augmenter d'environ plus 5 degrés. Donc, on pourrait aller se baigner jusqu'en décembre à la Drôme. Donc, c'est super. Non, plus sérieusement, donc, je pense que. À ce niveau-là, sur le climat, je pense que c'est, bon, c'est très grave. Je pense que le GIEC, dernier rapport daté de 2007, je pense que peu à peu, ces rapports très très sérieux, très, qui sont vraiment... Je pense qu'ils font, ces rapports font évoluer les mentalités et il y a une sorte, je pense, de prise de conscience justement là-dessus au niveau du climat. Même des Américains, on a vu il y a quelques semaines ou quelques mois un grand discours d'Obama sur le climat. Et on a vu il y a 2-3 semaines en France la conférence écologique. Donc je pense qu'à ce niveau-là, moi je pense que c'est vraiment la crise de ce siècle-là. Ça va être vraiment la crise écologique, personne n'en parle. Mais je pense qu'à long terme, c'est vraiment le problème du 21e siècle. Et je pense donc que cette prise de conscience, entre autres initiée par le GIEC, est vraiment une très bonne chose. Mais d'après moi, il faut faire attention parce qu'on a tendance dans ce monde-là à... principalement à propos d'économie, mais aussi plus généralement de politique et de vie publique, de penser très généralement à court terme. Or, cette crise climatique est sur du très long terme, et je pense donc que cette crise climatique ne peut être résolue que par des accords internationaux à long terme, qui, contraignant avec, je pense, qui sera... Toute l'économie va râler, parce qu'à à court terme, ça va être moins de bénéfices, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'emparer,
dont il faut s'emparer,
et dont il y a une primauté, je pense, là-dessus sur l'économie, sur les bénéfices à court terme de l'économie réelle actuelle dans le monde.
Alors, rapport du GIEC, c'est assez minoritaire, mais qui est un petit peu contesté par certaines voix, certes minoritaires, mais pour essayer d'établir la balance, certains disent que c'est pas aussi grave que ça, qu'on constate pas un réchauffement si rapide que ce qui a été dit, mais enfin bon, la plupart des gens du GIEC en tout cas confirment, enfin tous les gens du GIEC confirment que...
C'est marrant, c'est les plus grands industriels qui disent ça, c'est marrant.
Ouais, voilà, non, des physiciens, j'ai encore entendu hier dans l'excellente émission C'est dans l'air de Kelvy sur France 5, on avait un physicien qui expliquait que, alors je veux pas dire de bêtises, entre Arctique et Antarctique, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais que autant la banquise fondait considérablement dans l'un des deux, dans l'autre pas du tout,
l'Arctique
et
ça
a plutôt tendance à maintenir. Donc... Il relativisait le souci. Bon, après, moi, je ne suis pas un spécialiste et on a tendance à faire confiance quand même aux organismes spécialistes. Écoutez, je crois qu'on va devoir bientôt conclure puisqu'à 13h, la suite des programmes de Radio Diwa va se dérouler. Je vais peut-être me permettre de vous rappeler une dernière fois, comme ça vous l'aurez pour la prochaine fois dès le début de l'émission, le numéro du standard 0952 368 531. Ça, c'est le moyen direct pour... en direct, intervenir avec nous. Vous avez aussi, bien sûr, la possibilité de nous écouter sans forcément intervenir, discrètement, tranquillement, dans votre salon, votre chambre à coucher, ça ne nous regarde pas où vous nous écoutez, sur Radio Diwa, rdiwa.fr, et évidemment, pour ceux qui ont le privilège d'habiter le charmante région du Diwa, 107.5.fr. Nous vous souhaitons... Et puis, Adrien me fait remarquer, ça c'est les high-tech de l'équipe, que désormais nous sommes sur Facebook,
bientôt.
C'est ça ?
Bientôt.
Nous serons bientôt, pardon, sur Facebook. Bientôt, c'est quand, Adrien ?
Faire attention aux Américains.
Bonne remarque d'Arthur. On va faire attention quand même à l'Amérique ou à la NSC. Donc, qu'est-ce qu'on vous proposera sur Facebook, dont on rappellera les heures
Facebook.
De rendez-vous et une page Facebook.
Avec les sujets.
Avec les sujets.
Et puis, des liens vers les rediffusions, tout ça. J'en ai parlé avec Julien, donc ça devrait arriver dans la semaine, je pense.
D'accord, qui est ce Julien ?
Gontard.
D'accord, ah, bien sûr, il n'y avait pas Julien parmi
attention,
nous. Il s'excuse d'ailleurs, il a été pris ailleurs et Julien nous écoute de loin, mais il reviendra dans l'équipe probablement dès la prochaine fois. N'oubliez pas de rester à l'écoute des programmes de Radio Diwa, vous le savez maintenant, la radio du Diwa, la radio des Diwa, et même au-delà, CCCC, ce sera C'est ça la classe numéro 7, oui déjà numéro 7 là. Non, pas la semaine prochaine, je voudrais tellement qu'on se rencontre souvent dans 15 jours, ça sera le 16 octobre, et l'anniversaire de ma cousine, je fais un petit coucou parce que je sais qu'elle nous écoute régulièrement, ils sont tous en train de s'écrouler de rire, et si c'est comme ça, moi je vais balancer qui était là, la maman qui avait appelé tout à l'heure, mais non, on n'a pas le temps, il est 13h sur Radio Diwa, à dans 15 jours, merci.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.